18h. Le journal de 18h présenté par Loïc Jourgi.
Bonsoir. Les Jeux Olympiques sont officiellement lancés. La cérémonie d'ouverture a eu lieu cet après-midi à Tokyo. L'occasion de faire un premier tour sur la situation. Des mesures de dernier recours pour faire partir des gens du voyage et ce sont plus de 150 personnes qui ont quitté le parking à proximité de la Tissot Arena à Bienne aujourd'hui. Explication de la méthode utilisée dans ce journal. Le débit à la sortie du lac de Bienne ne sera pas augmenté, c'est ce qui ressort d'une réunion téléphonique entre les autorités de la ville et celle du canton. Un léger relèvement du niveau du lac n'est pas à exclure ce week-end si les orages étaient trop intenses. Et justement, météo, il faudra peut-être ressortir les parapluies ce week-end, puisque les orages devraient être de la partie. Au-delà de ça, ce sera le soleil qui nous accompagnera avec des températures tout de même un peu plus fraîches que ces derniers jours. Les Jeux Olympiques de Tokyo sont enfin ouverts. Ils ont été ouverts officiellement aujourd'hui après avoir été retardés d'une année à cause de la pandémie de coronavirus. Dernière relayeuse, c'est la joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka qui a allumé la vasque olympique qui brille désormais dans la capitale nippone, ville hôte des Jeux de la 32e Olympiade. La cérémonie d'ouverture s'est voulue sobre, parfois grave dans le contexte toujours pesant de la pandémie. Les précisions de notre envoyée spéciale au JO, Émilie Moumentaler.
Je déclare ouvert les Jeux de Tokyo. C'est ce qu'a solennellement prononcé l'empereur du Japon, Naruhito, selon la formule consacrée. Dans un monde qui reste sous la menace du Covid-19, la cérémonie d'ouverture n'a pas eu le caractère festif qu'elle a d'habitude. C'est bien la pandémie qui a dominé la manifestation, entre hommage au personnel soignant, avec cette infirmière choisie parmi les porteurs d'un immense drapeau japonais, ou cette vidéo d'athlète s'entraînant seule en référence aux compétitions stoppées net. Le traditionnel défilé a aussi été inédit avec des sportifs masqués qui ont observé pour la plupart des règles de distanciation sociale. Ce contexte particulier était aussi au cœur du discours du président du CIO. Thomas Barr a salué la résilience du Japon et des sportifs. Le lever de rideau de ces JO s'est aussi composé de feux d'artifice, de tableaux de danse moderne, de représentations d'art traditionnel japonais ou encore de prouesses technologiques avec un globe terrestre formé dans le ciel de Tokyo par des drones. Mais le spectacle s'est malheureusement déroulé devant des tribunes quasiment vides alors que le stade olympique peut accueillir 60 000 spectateurs en temps normal.
La flamme restera allumée au stade olympique jusqu'au terme de ces Jeux le 8 août. Durant ces deux semaines de compétition, plus de 11 000 sportifs représentant 206 délégations se disputeront les 339 titres en jeu dans 33 sports. La délégation suisse composée d'une vingtaine d'athlètes était emmenée pour la première fois par deux porteurs de drapeaux, la sprinteuse Mujinga Kambuji et l'épéiste Max Heinzer. Plus d'informations sur ces JO dans le journal des Jeux olympiques après le journal. La ville de Bienne a procédé à l'expulsion d'environ 150 gens du voyage. Ils étaient installés au sud de la Tissot Arena et avaient bénéficié d'un délai jusqu'au 30 juin pour évacuer les lieux. Une date limite qui n'a pas été respectée et qui a forcé les autorités à suivre une longue procédure police puis tribunal régional Jura-Bernois-Seelandes à deux reprises. Et c'est finalement l'ultime menace qui aura décidé les quelques 50 véhicules à quitter les lieux mardi soir. Explication du conseiller municipal Beat Feurer.
C'était prévu de remorquer les véhicules s'ils ne partaient pas. C'est en principe la première fois qu'on allait si loin, on était prêts. Et puis, ils étaient aussi informés qu'au cas où ils ne quittent pas, les voitures vont être remorquées. Et ça, naturellement, ils ne le veulent pas du tout parce qu'une fois les véhicules sont remorqués, ils ne peuvent plus se déplacer, ils ne peuvent plus rien faire. Alors, c'est vraiment un instrument fort. Et puis, je crois que c'était très important qu'on ait allé pour une fois jusqu'au bout pour voir comment on pourrait procéder pour une autre fois. Alors, pour une autre fois, on sait maintenant comment ça se fait. On est prêt pour la prochaine fois.
Et les gens du voyage étaient déterminés à rester jusqu'au mois d'août sur ce terrain qui fait office de parking, surtout en période de match du HC Bienne. L'accès au secteur est désormais bloqué au moyen d'éléments de construction. La répression des occupations illégales est importante selon Beat Ferrer, mais s'il faut aussi trouver des solutions pour accueillir les peuples nomades.
Oui, il y a les deux côtés. Il y a la côté répressif maintenant avec cette situation ici. On parle de la côté répressif. Mais je suis de l'avis avec aussi tous les représentants d'autres communes de la région qu'il faut naturellement aussi une solution pour ces gens du voyage, parce que effectivement, si on est seulement répressif, si toutes les communes ne leur offrent pas de place, c'est pas une solution. Ils doivent être quelque part, ils doivent pouvoir se placer d'une manière légale quelque part, et c'est ça qu'on cherche en même temps. Il faut chercher une solution, mettre à disposition une solution, mais en même temps montrer clairement que des occupations illégales ne sont pas respectées.
Un autre terrain reste occupé en ce moment par des gens du voyage au nord de la Tissot Arena, un terrain privé d'ailleurs. Les autorités rappellent à ce titre que c'est au propriétaire d'entreprendre les démarches juridiques nécessaires pour que le site soit lui aussi évacué. Avec les orages et les précipitations prévues ce week-end, le niveau du lac de Bienne pourrait remonter brièvement. On parle de 10 à 30 cm en fonction de l'intensité des précipitations. La police des lacs reste en état de vigilance accrue et la prudence s'impose toujours sur les lacs et sur l'art également. Par ailleurs, toujours impossible d'augmenter davantage le débit à la sortie du lac de Bienne. C'est la décision prise par le canton de Berne. Le conseiller d'État Christophe Neuhaus, directeur des travaux publics du canton de Berne, le maire de Bienne Eric et le directeur de l'action sociale et de la sécurité de la ville de Bienne, Béat Feuerer, ont fait le point de la situation hier par téléphone, Clotilde Loup.
Exactement, Loïc. Les représentants biennois ont demandé au canton d'augmenter le débit de sortie parce que le niveau du lac de Bienne descend lentement après le dépassement du niveau de crue. Situation équivalente pour les lacs de Neuchâtel et de Morat. Le débit maximal autorisé à la sortie du lac de Bienne est de 650 m3 par seconde. Il a déjà été augmenté à 750 m3 par seconde vendredi passé, un volume toutefois insuffisant pour faire baisser le lac. En cause, les volumes d'eau importants qu'écoule le lac de Neuchâtel dans celui de Bienne. Le refus d'encore augmenter le débit de sortie est surtout pour éviter les dommages possibles pour les riverains et les infrastructures sur le canal de Nidau-Buren et sur l'Ar jusqu'à l'embouchure de l'Aimé. Les dégâts seraient plus importants que le bénéfice potentiel de l'abaissement du niveau du lac.
Merci Clotilde. Et si le temps reste sec ces prochains jours, le lac de Bienne devrait revenir à son niveau de crue, 430,35 mètres. Une brève remontée n'est pas à exclure donc avec les orages attendus ce week-end. Et comme le niveau des eaux souterraines a diminué, les sapeurs-pompiers ont pu commencer mercredi déjà à pomper l'eau des garages souterrains et des caves dans les quartiers touchés. Ce midi, l'eau avait déjà été vidée dans plus de la moitié des 100 immeubles annoncés dans le périmètre d'intervention des sapeurs-pompiers et de la protection civile de la région de Bienne. Le parc ornithologique de Bévillard fait peau neuve. Après des travaux de nettoyage et de désencombrement, le site accueille de nouveaux canards, coqs, poules, paons ou encore des faisans dorés. Pierre-André Cher, un retraité qui s'est proposé pour reprendre l'activité du parc ornithologique. Avec sa femme Elisabeth, il s'active à redonner vie au parc. Clotilde Loup est allée à la rencontre de Pierre-André Cher.
Ici, c'est ce qui plaît, c'est la verdure. Il y a beaucoup de verdure, c'est vrai, c'est un beau cachet. C'est géranium qu'on avait au balcon aussi pour donner un peu de la couleur.
Vous faites ça tous les jours, 7 jours sur 7?
Du 1er janvier au 31 décembre, il y a tous les jours quelqu'un qui vient. Hein. Voilà, ici, je sais pas si c'est dedans. Voilà.
Donc là, dans le tronc, il y a là une...
C'est quoi une canne de, c'est une canne mignon, sauf erreur. C'est une dame de Tremblant qui nous les a... qui les a mis ici du fait qu'elle se faisait manger. Et puis, c'est celle que je trouvais plus. Et puis voilà, puis elle est ici, puis elle couvre. Elle a 6 œufs.
Ah, donc elles se cachent pour être tranquilles et pouvoir couver tranquillement.
Oui. Et puis ils cherchent leur dieu, bébé. J'ai encore ici dans les cabanes, celles-là, on va les refaire, mais pour le moment, il y a deux cannes qui couvrent. Voilà. On va passer par ici, oui, on peut continuer par ici. Ça, c'est aussi toi à remettre en état, disons, il y a les vitres cassées, il y a du commerce en haut, il y a encore un grand local. Et donc... il faudrait tout laver parce que ça sent, ils n'ont jamais lavé et tout. Ils avaient fait le balcon, l'escalier, c'est joli aussi. Il me faudra quelque chose pour l'hiver. Là, les poules, il faudra que je les mette au sec, hein, je ne pourrais pas les laisser dehors, tandis que les canards, ils restent dehors. Hein. Voilà, les premières bêtes que j'ai amenées, c'était ici, je les avais recroquevillées. Puis comme on est venu me dire, dis, attends, coquille chante, hein, ça ne va pas. Alors comme il n'y avait pas d'électricité au début, il a fallu mettre un filet contre la grêle pour un peu protéger à cause du rapace par qui viennent et puis qui me les ramasse au vol. Bien, coq. Alors celui-là, c'est suivant ce que vous avez, comme habit, puis tout, il vous rappe dessus. Il est assez agressif. Comme il n'y en a pas d'autres de coq, il s'abstient de chanter, mais s'il y avait un coq à l'autre bout, il chanterait tout le long.
Et pour visiter le parc, rien de plus simple, il faut s'y rendre et on peut faire le tour depuis l'extérieur. Si l'un des responsables s'y trouve, il est possible d'y entrer et de faire le tour de l'étang. Possibilité également d'aller voir les volières et ses résidents de plus près. La politique s'ouvre à la jeunesse et aux néophytes. La région le prouve grâce à ses nombreux élus qui n'ont pas même encore atteint la trentaine. La rédaction d'RJB leur donne la parole durant la pause estivale. Et aujourd'hui, c'est au tour d'Ismaël Moni, à 29 ans. Cela fait déjà 3 ans qu'il porte la casquette de conseiller communal de Valbirs. Il s'agit de son premier mandat en politique. Et pourtant, il n'a pas eu de mal à s'acclimater à cette nouvelle charge de travail.
Par mes fonctions aussi au travail, je peux me libérer aussi durant les heures, donc c'est vrai que j'ai pu m'adapter assez facilement. Les séances le soir, ça ne me dérange pas et tout se passe bien à ce niveau.
Pour terminer, le dossier qui vous a le plus marqué ou qui vous tient le plus à cœur ou voilà, vraiment votre cheval de bataille pour votre commune, c'est lequel ?
À mon niveau, je n'en ai pas qu'un. C'est un peu tous les dossiers que j'ai en cours maintenant me tiennent à cœur. On parle du parc ornithologique qu'on a remis en fonction. On parle aussi de la déchetterie, qu'on réfléchit à faire une déchetterie communale. Il y a aussi maintenant un groupe de travail qui veut se former pour les candélabres et la lumière dans les villages. Et voilà, toutes les réflexions, les plans d'investissement sur les routes me passionnent aussi. Donc il n'y en a pas un qui marque plus que d'autres.
Ismaël Moni répondait à Natacha Mengoli. Vous retrouvez cet entretien complet avec le conseiller communal de Valbirs sur rjb.ch.
18h11, on fait le point sur les JO de Tokyo.
Le journal des Jeux Olympiques de Tokyo.
Les 29e Jeux Olympiques d'été sont ouverts et une cérémonie de près de 4 heures a officiellement lancé les JO de Tokyo cet après-midi. Un petit millier de privilégiés a pu y assister et parmi eux, le président de la Confédération Guy Parmelin, le président français Emmanuel Macron ou encore la première dame des États-Unis Jill Biden. Guy Parmelin qui est arrivé à temps pour ce rendez-vous mais qui a raté sa rencontre avec l'empereur japonais Naruhito. L'avion du Conseil fédéral a dû faire face à des problèmes techniques. Une vingtaine d'athlètes suisses ont pris part à cette cérémonie. Ils ont défilé derrière les deux porte-drapeaux, Munjinga Kambuji et Max Heinzer. L'honneur d'allumer la flamme olympique est revenu à la joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka. La Suisse aura d'entrée une première chance de médaille dans ces JO puisque Mark Hirschi et Gino Meder auront un coup à jouer demain lors de la course en ligne de cyclisme. Ils seront épaulés par Michael Scher et Stefan Küng. L'or semble promis à un puncher ou à un grimpeur au terme d'un parcours long de 234 km. 4 ascensions sont au menu, dont celle du Mont Fuji, avant une arrivée jugée sur un circuit automobile. Le Bernois Mark Hirschi est l'un des prétendants au titre.
Moi, je pense que le jeu olympique, c'est toujours difficile pour dire. Beaucoup de fois, c'est aussi pas les gros favoris qui gagnent, parce que ça, je pense que ça va être une course vraiment ouverte. Il y a beaucoup de favoris, peut-être 20 coureurs qui peuvent gagner le samedi.
Comment vos 3 coéquipiers peuvent vous aider?
Je pense avec Michi Schär et Stefan Küng, c'est vraiment important qu'on ait assez de bidons, assez de cooling down. Et après avec Gino, je pense que c'est vraiment important qu'on ait 2 coureurs dans les finales et après on doit jouer. Et oui, anticiper, et je pense comme ça on va profiter.
Mark Hirschi qui pourra donc compter sur Michael Scher pour l'épauler. Le Lucernois participe à ses 2e Jeux Olympiques après ceux de Londres en 2012. Il est prêt à jouer un rôle d'équipier moins d'une semaine après avoir bouclé le Tour de France. Michael Scher.
Ça va très bien, je pense que c'est une grande chance de la tête. Si on est motivé, on a un grand but en avant, ses yeux, ça donne une grande motivation et ça change le corps parce que j'ai déjà fait chaque année après le Tour de France, la semaine après, on fait Saint-Sébastien. C'est la même chose, 5-6 jours plus tard. Mais si tu te relâches vraiment trop après le Tour de France, c'est presque impossible de faire une belle course. Mais ici, avec les Jeux, on a un grand but et je suis hyper motivé d'être là. Comme ça va mieux la transition.
Le départ de la course en ligne sera donné à 4h du matin, heure suisse. L'Espagne a bien failli devoir y renoncer d'ailleurs puisqu'un masseur de son équipe de cyclisme a été testé positif au Covid-19 aujourd'hui. Les autres membres ont effectué un test PCR qui s'est à chaque fois révélé négatif. Et Sabrina Jacquet va aussi faire son entrée en lice tôt demain matin. La Neuchâteloise va entamer à 6h la phase de groupe du tournoi de badminton. La Suissesse doit faire face à une tuile avant ses JO. Elle s'est blessée au mollet gauche il y a 3 jours. Sabrina Jacquet empoignera gardera tout de même sa raquette pour disputer son premier match et ce sera face à la numéro 1 mondiale, la taïwanaise Tai Tsuying, Sabrina Jacquet.
C'est pas une trop grosse blessure, donc c'est pas une déchirure ou autre, donc j'ai encore l'espoir que ça va aller sur le terrain. Mais voilà, je commence la compétition demain, donc le timing était très 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 court pour me remettre de cette blessure. Du coup, ma préparation était complètement différente que ce que j'avais espéré. J'ai pas été beaucoup sur le terrain, j'étais plutôt beaucoup en thérapie, et des thérapies alternatives aussi, un entraînement alternatif. Donc c'est la situation actuelle que demain, c'est encore pas complètement sûr que je pourrais être au mieux de ma forme ou bien je vais aller sur le terrain, ça c'est quasiment sûr, mais on verra comment mon corps réagit à ce moment-là.
Des propos recueillis par notre envoyée spéciale à Tokyo, Emily Mumenthaler. 18h15, c'est la fin de ce rendez-vous d'actualité. Je vous souhaite une très belle soirée et un bon week-end.
Le journal des Jeux Olympiques de Tokyo.
Merci Loïc. Et quant à nous, on va encore jeter un coup d'œil sur le ciel. Ce soir, quelques passages nuageux d'altitude seront possibles, mais les températures resteront chaudes. Demain, des passages nuageux seront possibles le matin et quelques gouttes ne sont pas exclues. Sinon, le temps sera bien ensoleillé et chaud jusque dans l'après-midi. Des orages arriveront par la suite, violents par endroits. Les températures seront chaudes, 28 degrés à La Neuville, 27 à Bienne et Moutier, 26 à Tavannes et Tramelan et enfin 25 à Saint-Imier. Dimanche, la météo sera encore variable et des averses pourront se produire régionalement, mais avec une tendance à l'amélioration dans l'après-midi. Les maxima seront douces, 24 et 25 degrés en plaine, 22 dans les vallons. Le début de semaine se fera également sous les gouttes malgré de belles températures.